L'heure de pointe, David Torchala.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'heure de pointe, ce temps société sur Radio Présence, toujours en votre bonne compagnie. Anne Deslois, bonjour Anne.
Bonjour David, bonjour à tous.
Vous êtes chroniqueuse sur cette émission, vous qui aimez tant la solidarité sur nos ondes de Radio Présence, et puis vous êtes avec Delphine Pereira. Bonjour Delphine.
Bonjour, bonjour à tous.
Fidèle au rendez-vous et à ce partenariat avec le groupe La Dépêche du Midi pour cette émission l'heure de pointe. Alors cette semaine lourde, on va aller dans la cité mariale, puis puisqu'il s'y vit un temps particulier, un temps fort. C'est le 80e pèlerinage de l'association Voir Ensemble, un mouvement engagé depuis près d'un siècle aux côtés des personnes aveugles, des personnes malvoyantes, et depuis lundi jusqu'au 18 avril, dont des centaines de pèlerins, quasiment 300, on va nous le confirmer, sont rassemblés à Lourdes, accompagnés de bénévoles et de proches pour vivre ensemble un temps de prière, de fraternité, de partage. Une maquette a également été inaugurée, une maquette qui représente le sanctuaire, une initiative importante aussi pour rendre toujours ce lieu accessible à tous. Alors, que signifie aujourd'hui voir ensemble? Comment vivre Lourdes quand on ne voit pas ou quand on voit mal? En quoi ce pèlerinage est-il aussi un message pour toute la société? On va l'aborder avec nos invités et ils sont nombreux. D'abord, j'ai la joie d'accueillir Mathieu Juglard. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes le président de Voir Ensemble.
Tout à fait, président depuis 2023. Président de cette association qui compte plus de 2000 adhérents, également 2000 bénéficiaires, 500 salariés, puisque nous sommes un mouvement chrétien, mais qui accompagnons également dans la vie quotidienne beaucoup de personnes, que ce soit lors de leur prise en charge, quand ils ont perdu la vue, soit de naissance, soit plus tard dans la vie, durant toutes les étapes de la vie, que peuvent être l'éducation, le travail, l'enseignement supérieur, et puis également le grand âge.
Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Ryder.
Oui, Ryder, mon chien guide depuis 2022.
Et voilà, qui est lui aussi sur le plateau. Merci d'avoir répondu présent. On va rentrer avec vous au cœur de Voir Ensemble. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes aussi avec le père Hervé Rollin. Bonjour,
bonjour
père. Vous êtes aumônier national. Non, pas le président. Peut-être bientôt. Non, il n'y a pas d'annonce. Aumônier national. C'est un mouvement. On peut qualifier Voir Ensemble
d'un
mouvement.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme a dit Mathieu, notre président, Voir Ensemble, c'est deux identités qui ne font qu'une. Donc, le mouvement, qui est un mouvement chrétien, parce qu'il a été fondé par un prêtre jésuite aveugle, le père Yves Mola, de Lyon. Donc, c'est lui qui a créé tout au début, on pourrait rappeler même la croisade apostolique des aveugles, avant qu'on laisse le mot apostolique de côté, donc la croisade des aveugles. Et on est resté un petit peu, Voir Ensemble, c'est développé à travers des années, des groupes, des commissions, et surtout un côté pastoral. Donc c'est pour ça que nous sommes donc à Lourdes, où on maintient jusqu'à ce jour, donc 80e anniversaire de Voir Ensemble à Lourdes, qui est comme pour nous des grandes festivités, hein, même si on est beaucoup moins nombreux qu'avant. Moi j'ai commencé Voir Ensemble, ça fait 35 ans que j'y suis,
ah oui.
Donc 6 ans que je suis aumônier national, et nous étions, mon premier pèlerinage, 1400.
Et là, vous êtes quasiment 300.
274.
274.
Mais ça peut varier. Des fois, c'est 273 et des fois, c'est 274.
Ah, s'il y en a un qui se perd, c'est ça, en chemin?
Non. Pour des raisons que j'ignore.
Ah, c'est ça. On va savoir tous les secrets.
Je le dis avec beaucoup d'humour.
Oui, et on voit que vous n'en manquez pas et qu'il y a beaucoup de joie de vivre, en tout cas. C'est ce qui caractérise Voir Ensemble. Il y a aussi Isabelle Buisson. Bonjour, Isabelle.
Oui,
il faut se partager le micro. Bah oui, on est nombreux dans le studio.
Bonjour à tous.
Vous êtes secrétaire de la pastorale.
Oui, tout à fait.
Alors, vous êtes aux ordres de l'aumônier national, vous venez d'entendre.
Absolument. Et depuis 1999, je suis donc, j'ai connu 3 aumôniers nationaux, en fait. Et donc, il y a une pastorale qui se réunit au moins 2 fois par an, plus la commission Lourdes, qui est un gros chantier, un gros travail de l'association que nous faisons, voilà.
Merci. Juste à côté de vous, donc c'est Dominique Alain. Bonjour Dominique.
Bonjour à vous.
Vous êtes un fidèle de Lourdes. Vous êtes évidemment membre de Voir Ensemble. Vous êtes un fidèle. Voilà, vous avez participé particulièrement à aider le sanctuaire de Lourdes. On aura l'occasion d'en parler. Mais sur l'audiodescription de son film officiel, et c'est évidemment nécessaire.
J'ai un long parcours à Voir Ensemble, puisque j'ai commencé avec la Croisade des Aveugles. Attachez-vous, en 1972, en venant au pèlerinage, invité par mon grand-père. Et ce premier pèlerinage, j'avais accompagné un jeune déficient visuel. Et je vais faire des blagues aussi, ça m'a ouvert le monde sur les déficients visuels.
Ouais. Enfin,
ouvert les yeux sur les déficients visuels. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je m'engage dans ce chemin-là. J'étais jeune, j'avais 14 ans. Mais après, j'ai fait un parcours dans Voir Ensemble. J'ai été président de l'hospitalité Notre-Dame-de-la-Lumière jusqu'en 2015, où j'ai laissé la place. Et j'ai été aussi membre du conseil pastoral. J'étais au conseil d'administration, et depuis peu, je n'y suis plus. Voilà, donc j'ai fait un long parcours au sein de Voir Ensemble. Et j'ai noté une phrase qui conduit un peu ma vie à Voir Ensemble. Je vous la cite, c'est une phrase de la parole de Dieu. « Ce jour-là, les sourds entendront ce qui est dit dans le livre, et sortant de l'obscurité, les aveugles se mettront à voir. » Et ça conduit ma vie, et mon action, et mon engagement à Voir Ensemble, et auprès des personnes déficientes visuelles.
Un engagement que vous perdurez, puisque vous nous avez dit en préparant cette émission que, à nouveau, vous reprenez du service au sein de l'hospitalité Notre-Dame de Lumière.
Oui, tout à fait.
Alors ça, c'est une question quand même qui est pour le président, parce qu'alors on a parlé de l'association Voir Ensemble, on a parlé du mouvement d'église, on parle maintenant de l'hospitalité Notre-Dame de Lumière. C'est toute une composante, en fait. Comment pouvez-vous nous décrire votre organisation?
Voir Ensemble, c'est une association une et indivisible, qui se décline en plusieurs facettes. Évidemment, on pense à ce côté bicéphale qui sont à la fois les établissements et services et le mouvement, et qui en réalité se nourrissent l'un l'autre, puisque quand le mouvement s'exprime, il porte la parole des établissements et services, et donc de 500 professionnels extrêmement qualifiés sur l'accompagnement des personnes déficientes visuelles, qui nous apportent toute leur technique et toute leur expertise. Et puis quand les établissements et services s'expriment, eh ben, ils portent les valeurs chrétiennes que sont celles de notre mouvement. Donc les valeurs d'accueil de l'autre, d'inclusion, parce que nous croyons avoir ensemble, et nous sommes bien les seuls d'ailleurs, c'est très heureux pour nous, dommage pour les autres, nous sommes bien les seuls à penser que le bénéficiaire d'un service, petit ou grand, peu importe, peut un jour en devenir le patron. Vous allez dans le médico-social, vous ne trouverez jamais une telle approche. Évidemment, dans le mouvement, il y a tous les aspects religieux, plus ou moins quotidiens. Donc ça va être l'accompagnement, le partage d'évangile, peut-être l'accompagnement à la messe, ça dépend des groupes. Et ça va être également la messe prêchée dans le groupe. Mais également, il y a toute cette dimension hospitalière qui accompagne le pèlerinage de Lourdes, que nous faisons à Lourdes chaque année, depuis 80 ans. Pour cela, nous avons le plaisir et la chance de compter sur un certain nombre de bénévoles qui sont nos hospitaliers, qui accompagnent avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de savoir-faire, il faut aussi le dire, des personnes déficientes visuelles, quel que soit leur niveau de handicap, ça va de l'aveugle profond au malvoyant plus léger, mais également avec des handicaps associés, eh bien nous avons ces hospitaliers qui sont accompagnés et qui sont soutenus par notre association, c'est-à-dire que on se débrouille quand même dans la mesure du possible pour que la charge financière, notamment pour ces gens-là, soit allégée, parce que c'est tout de même du temps qu'ils prennent, c'est beaucoup de temps qu'ils dévouent à l'autre. Est-ce que ça leur est toujours bien rendu? Je ne sais pas, ça dépend du secret de leur cœur, mais en attendant, c'est un grand service qu'ils rendent aux pèlerins déficients visuels, de les accompagner comme cela. Alors, Notre-Dame de la Lumière. Pourquoi Notre-Dame de la Lumière? Notre-Dame, évidemment, parce que c'est Lourdes, hein, c'est Notre-Dame de Lourdes, c'est Notre-Dame de Paris, c'est Notre-Dame de tous nos cœurs. Et puis de la lumière, parce que c'est ce que nous espérons tous, voyants comme non-voyants, voir au dernier instant, quand il nous sera donné, si Dieu le veut, de passer à son paradis. Voilà donc Notre-Dame de la Lumière, pourquoi?
Père Hervé Rollin, pour rester encore un peu dans les origines du mouvement, avant vraiment de découvrir toutes ces spécificités, comment toujours peut-être, c'est certainement dans l'intuition du père Yves Mola, mais comment passe-t-on de la croisade des aveugles à voir ensemble? Croisade des aveugles, j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement difficile. Est-ce qu'à un moment, pourquoi le choix du mot croisade? Pourquoi aujourd'hui voir ensemble? Est-ce que le mouvement a évolué? Est-ce que ce changement de titre en 2003 a fait sens à un nouveau projet pastoral? Comment vous...
Alors, il y a un projet associatif. Mm-hmm. Vous faites bien de le dire, on l'a pas dit. Et dans ce projet associatif, il y a différentes composantes que Mathieu a déjà exprimées. Mais je me dis, la croisade apostolique des aveugles, il faut partir que c'était un langage d'époque. Mmh. Avec un prêtre qui était jésuite, avec une formation jésuite quand même très forte et prononcée, avec un langage d'époque. Hein, où je veux dire, croisade des aveugles, on partait un peu en croisade, on partait un petit peu conquérir. J'ai lu dans le livre de Voir Ensemble, La croisade des aveugles, que le père Yves Mola a commencé cette croisade des aveugles avec deux personnes. Et après, ça s'est développé. Et à travers le temps, Voir Ensemble, La croisade des aveugles, croisade apostolique des aveugles, croisade des aveugles, et en 2003, Voir Ensemble, je crois qu'il était jugé bon. Le conseil d'administration en a eu conscience qu'il fallait revoir la politique, pas trop, mais surtout une nouvelle nomination plus récente, plus actuelle, plus parlante. Vous voyez, croisade, ça fait un peu vraiment... on part en guerre. C'est pas le but de partir en guerre, même s'il y a beaucoup de choses à conquérir. Mais c'était vraiment, je dirais... On est resté, malgré tout. Vous voyez, 80 ans, et en 2027, ça sera 100 ans de l'existence de Voir Ensemble, croisade des aveugles. Et on est resté malgré tout, et c'est même inscrit dans notre projet associatif qui reprend toutes les composantes qu'a évoqué notre président Mathieu de Voir Ensemble. Mais je reviens aux racines chrétiennes, le fondement, je dirais même le socle de toutes ces composantes qui s'est, à travers le temps, à travers les années, développé avec les 42 groupes de Voir Ensemble en France. Il y a plusieurs commissions, comme la CSI, qui est la Commission Solidarité Internationale, la CNLC, qui est le Sport, Culture, Loisirs. Il y a deux nouvelles commissions qui ont été mises en place très récemment, la Commission Éthique, Commission Scientifique. C'est très fort, dans le sens où ces deux commissions-là réfléchissent à toutes ces nouvelles technologies, mais surtout, je dirais, à la dignité de la personne, de son début de vie jusqu'à la fin de vie, la déficience visuelle, le handicap associé, même des maladies rares. Voilà, donc je veux dire, la pastorale, je veux dire, les valeurs du père Yves Mola, même si à travers le temps, elles changent, parce que la société évolue, l'Église évolue, même le langage évolue, mais on reste toujours dans ce sillon-là du père Yves Mola, qui, je dirais, si tout cela existe, c'est grâce à lui.
Anne Deloye.
Oui, on entend bien à travers ce que vous dites, le fait de s'appeler aussi Voir Ensemble, on sent vraiment toutes les valeurs d'entraide, de solidarité entre vous, entre les déficients visuels, les aveugles, les personnes qui accompagnent. On sent bien, ça fait une grande famille en fait, Voir Ensemble. Et j'avais un jour découvert que votre mouvement d'église fait partie de cette ONG catholique, le service du CCFD Terre Solidaire, qui est composé d'autres services et mouvements d'église. Pourquoi donc Voir Ensemble est membre du CCFD Terre Solidaire, qui appelle à un certain regard sur la solidarité internationale?
Alors là, c'est la Commission Solidarité Internationale qui est une commission propre de Voir Ensemble. Ah. Et si vous voulez, à travers le temps, donc je veux dire, même tout en restant dans l'esprit du père Yves Mola, notre fondateur, toujours de travailler avec des partenaires ecclésiaux, donc l'Église, sociaux-médical, médical, paramédical, des professionnels, des bénévoles. Il y a toujours ce souci quand même à Voir Ensemble de d'approfondir, je dirais de creuser, toujours à travailler avec des partenaires civils et religieux. Et on ne peut pas, si la déficience visuelle veut être connue et reconnue, on ne peut pas rester que l'entre-soi où on est bien. Il y a toujours ce défi de se faire connaître, d'approcher d'autres mouvements, d'approcher aussi le monde civil, les agences régionales de santé, encore d'autres commissions et d'autres instances civiles. C'est très très important.
Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la personne déficiente visuelle, elle vit dans la cité et elle a pour ambition de vivre dans la cité de plus en plus. Depuis l'invention du braille, il y a maintenant 201 ans, nous avons célébré les 200 ans l'année dernière, la personne déficiente visuelle, elle ambitionne d'écrire. Je vous dirais que c'est une ambition qui pourrait même remonter à l'Antiquité. Si vous commencez avec Homère qui vient après chanter ses poèmes sur les places de Grèce, vous avez ensuite le Christ qui va avoir un message d'inclusion extrêmement fort. Si vous lisez l'évangile selon saint Jean et l'évangile notamment de l'aveugle de naissance, c'est un évangile qui appelle à l'inclusion puisque le Christ se contente de faire un geste, hein, il va toucher les yeux de cet aveugle de naissance avec la boue, avec de la boue, et puis il lui dit « bon, ben maintenant tu te débrouilles, tu vas à Siloé, mais tu vas tout seul. Hein. » l'aveugle de naissance y va tout seul, il revient, il voit, ça crée un scandale pas possible dans la société, la haute sphère judéo-romaine, mais comment, qu'est-ce que c'est que cette histoire, cet homme ne voyait pas, maintenant il voit. Donc, il y a cette espèce de choc et pendant lequel le Christ va rester assez absent finalement, il va se contenter d'observer et puis de dire à la fin, bon ben voilà, je suis le Christ, je suis le Messie, mais il reste absent parce que c'est une volonté qui doit venir des personnes. En tout cas, c'est comme ça que personnellement je l'interprète. Je pense que voir ensemble, c'est aussi comme cela que nous voyons la chose. C'est-à-dire d'aider la personne, mais que la personne trouve par elle-même son indépendance, je dirais, visuelle. Avec évidemment, de temps en temps, l'aide de son prochain. C'est aussi pour montrer au prochain que ben, un jour, cette cécité totale ou partielle pourrait lui arriver à lui ou à un de ses proches. Et c'est quelque chose, évidemment, qu'on ne souhaite pas hein, à qui que ce soit, mais qui, tout de même, doit généralement conduire à une forme d'espoir plutôt qu'à une forme de désespoir. Quand vous avez des personnes qui perdent la vue, notamment liées au grand âge, bon, généralement, c'est une forme de détresse parce qu'on ne peut plus lire, on ne peut plus regarder la télévision, on ne peut plus jouer au Scrabble, jouer aux cartes. Donc, on se sent d'un seul coup très isolé. Une partie de notre message, c'est ça, c'est de dire ne vous sentez pas isolé, vous trouverez toujours un secours et plus qu'un secours, un réconfort.
Delphine Pereira.
Et ce réconfort, c'est ce que vous faites aussi pendant le pèlerinage, puisque je suppose qu'il y a des personnes mal ou non-voyantes, mais il y a aussi beaucoup d'accompagnateurs, parce que c'est nécessaire, mais aussi des gens qui se reconnaissent là-dedans parce qu'ils ont peut-être un membre de leur famille et qui aident beaucoup pendant le pèlerinage.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens, de personnes hospitalières, soit ils ont eu quelqu'un de leur famille ou proche, très proche, un ami, qui a perdu la vue ou qui est dans la déficience visuelle. Donc je me dis, il y a quand même une sensibilité au handicap, à mon avis. Toutes ces personnes-là ne viennent pas par hasard. Il y a vraiment un intérêt. Et puis, j'insiste vraiment sur cette dimension de se mettre au service. Vous voyez, je prends l'hospitalité, Notre-Dame de la Lumière. Tous n'ont pas le même degré dans la foi, tous n'ont pas le même parcours en église, tout le monde n'a pas le même degré de pratique religieuse, sacramentelle et spirituelle. Je vous prends un exemple très concret. Là, tout à l'heure, on a la cérémonie de l'onction des malades. Plusieurs hospitaliers et hospitalières sont venus me demander précisément qu'est-ce que c'était, les conditions pour avoir le sacrement des malades. Donc, vous voyez, le pèlerinage, c'est les aveugles, les malvoyants, les guides, les bénévoles, les accompagnateurs, l'hospitalité, le bureau de la pastorale, bien sûr, des salariés qui sont présents. Ça, c'est le groupe, voire ensemble, 274 personnes cette année. Mais je me dis, il y a aussi toute cette dimension quand même humaine, spirituelle, sacramentelle, religieuse, où la présence des prêtres et des diacres sont nécessaires pour bénir des objets religieux, pour recueillir des intentions de messe, poser des questions. Hier, il y avait l'homélie pour justement la cérémonie de l'hospitalité, la célébration mariale. Une jeune fille est venue me poser des questions. Voilà, il y a tout ce rôle aussi, je dirais, à parallèle de l'Église, puisque tout le monde n'a pas le même pratique religieuse, et je dirais surtout le même regard sur l'Église, sur la pratique, sur les pèlerinages. Il y en a qui viennent juste servir, et là je parle avec une hospitalière qui a dit « je ne pratique pas », mais elle a dit « je découvre, je reprends un peu tout ça ».
Isabelle Buisson, vous qui êtes aussi chargée de la pastorale, on voit bien tout l'effort qui est mis pour accompagner les personnes, à leur faire vivre une expérience spirituelle forte. Est-ce que vous pensez que l'Église a encore à faire dans le quotidien des personnes? Parce qu'il y a toujours un après-lourde, hein, un moment où on rentre à la maison, et puis est-ce que, comment, selon vous, hein, et puis peut-être que d'autres pourront aussi répondre, est-ce qu'il faut encore progresser en Église pour l'accueil des personnes
Je pense qu'aujourd'hui, l'Église a fait quand même de gros progrès, et je le constate depuis 1999, où je suis vraiment engagée dans le mouvement Voir Ensemble, et à la pastorale. Et vraiment, au niveau... Alors, nous sommes présents à la conférence des évêques, où il y a des réunions, deux réunions par an, où notre aumônier national assiste, auxquelles ils assistent. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment, pour la déficience visuelle, quelque part, la conférence des évêques sait que nous existons. Et nous sommes le point d'entrée pour la déficience visuelle, de ce qui pourrait être adapté pour justement que les personnes déficientes visuelles vivent au mieux peut-être des grands temps de rencontre où là, on a besoin d'audiodescription.
Oui, c'est ça.
Et alors évidemment il y a les casques, il peut y avoir les casques pour les bien sûr où on fait ça dans la discrétion et que personne n'entend.
Ouais.
Mais ça peut aussi être fait tout simplement parce que avant une procession vous allez indiquer ce qui va se passer dans la procession. C'est assez simple à faire, mais bon, quelquefois à un moment on sentait que ça dérangeait un petit peu, et je crois qu'aujourd'hui vraiment on sent le meilleur accueil au niveau de la personne handicapée, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Il y a un peu des gardiens du handicap un peu dans chaque paroisse. Enfin, moi, je suis sur Paris, donc ça, c'est vraiment mis en place par le vicariat des personnes handicapées. Il y a vraiment une avancée vers ça. Mais c'est vrai que quand il y a des grandes célébrations et que vous avez une célébration ou avec une procession qui va se passer dans le silence.
Oui, il faut expliquer.
Voilà, il suffit de l'expliquer juste avant.
Oui.
Il n'est pas nécessaire de couper les choses.
Comme l'habitude de le faire avec nos auditeurs en radio qui n'ont que le son.
Et justement, pour aller dans ce sens-là, c'est un peu ce qu'on a vécu hier à Lourdes, dans le sanctuaire, avec l'inauguration de cette maquette tactile.
Tout à fait.
Qui est aussi un point d'entrée très importante pour les personnes malvoyantes, non-voyantes, et même pour les voyantes.
Bien sûr.
Et au-delà de ce que vous dites, je me permets, parce que ça a été vraiment un des points forts de notre 80e anniversaire. Alors, je précise, avec trois partenaires financiers, oui, qui sont le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, à travers le Père d'Aubagne, l'OCH Paris et Lourdes, Martine Diallo, et puis bien sûr, le Voir Ensemble, c'était Mathieu, notre président, qui a fait le discours hier. Donc, les trois partenaires financiers pour cette maquette, et moi, je suis venu deux fois sur place, donc novembre et décembre, pour voir l'évolution avec Sébastien Bousquet, service technique et accessibilité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Donc ça a été vraiment
fort,
le choix des matériaux, la présentation avec la société de Tarbes, qui a confectionné cette maquette tactile.
On a besoin de descriptions.
Il a fallu mesurer quand même, c'était quelque chose d'assez extraordinaire que j'ai appris hier.
Ah oui.
Il a fallu aussi, avec des drones, des mesures.
Ce sont des heures et des heures de mesures.
Ah oui, parce qu'après, il y a
Mathieu Jugla, on parle, aidez-nous juste à bien comprendre le projet de maquette, parce que vous avez tous un train d'avance.
Le projet de maquette, d'abord, il faut vous dire pourquoi. Il y avait une ancienne maquette qui a été fatigué à force d'usage. Et donc, on a recréé cette maquette. Alors, l'idée de cette maquette, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir à peu près sous la main, en tout cas à portée de bras, l'intégralité, une représentation de l'intégralité du sanctuaire de Lourdes, qui est étonnant parce que ce sanctuaire traversé par, ce, par le gave de Pau, avec les divers édifices, évidemment avec le rocher, le roc de Massabielle, avec, avec la basilique Sainte-Bernadette, etc. Enfin bref, tous ces bâtiments étonnants qui sont, quand on se promène dans le sanctuaire et qu'on n'y voit pas, qui sont très difficiles à localiser les uns par rapport aux autres. Et donc, l'idée de cette maquette, c'est de donner cette représentation assez globale, puisque par hypothèse, la personne aveugle n'a que ce qu'elle a au bout des doigts, ne sait que ce qu'elle a au bout du doigt. C'est-à-dire que c'est une échelle beaucoup plus étroite, hein, une perspective beaucoup plus étroite que celle de l'œil. Donc, on est obligé de faire quelque chose à la représentation. Alors, évidemment, ça implique d'abord des mesures qui ont été faites par des drones. Aujourd'hui, on peut le faire avec des drones.
On est à l'échelle, hein, c'est ça qu'on
est. On est à l'échelle, hein. Attention, on est à l'échelle. On a beaucoup réduit, mais on est heureusement d'ailleurs.
Oui, bah, oui, ça va rentrer. Voilà,
sinon, on la mettrait par-dessus le sanctuaire. Donc, on est à l'échelle, et donc on a fait ces mesures. Et après, c'est un travail d'impression en 3D. Qui est donc avec des appareils qui permettent aujourd'hui de manière informatisée de créer du relief, puisque nous avons besoin de ça, hein, c'est une maquette vraiment en trois dimensions, avec ça monte, ça descend, ça va à gauche, ça va à droite, ça va devant, ça va derrière, donc on est vraiment sur la trois dimensions, et c'est pas un plan, si vous voulez, comme on pourrait avoir juste avec la représentation des bâtiments, mais qui est beaucoup plus difficile à percevoir ou toucher. Et donc, mesure avec des drones, impression en 3D pendant des jours, puis après, il faut confectionner tout ça. Il faut réussir à assembler, et là, ça se fait encore en partie à la main. Et puis, dernier élément, et non des moindres, c'est de représenter, de nommer les lieux. Donc, il faut avoir une légende. Et pour ça, nous avons, sur le côté gauche de la maquette, vous avez une légende en braille, et avec des numéros, et dans la maquette, vous avez des numéros qui représentent tel et tel élément, et on peut se reporter, il suffit de se reporter à la légende pour savoir que le 1, c'est telle chose, le 2, c'est telle chose, le 10, c'est telle chose, voilà. Et des textures différentes selon que l'on a affaire à des pelouses, à des bâtiments, à des voies de circulation, aux gaves de Pau, etc. Donc, c'est un travail extrêmement complet, extrêmement minutieux, qui se fait sur des mois, hein, ce sont vraiment des mois de travail, beaucoup d'efforts, mais qui permettent derrière d'avoir une représentation utile pour les personnes déficientes visuelles, certes, mais pas que, hein, également pour les personnes voyantes qui sont susceptibles d'accompagner une personne déficiente visuelle ou bien susceptibles de regarder cette maquette qui est tout de même assez en vue au bord du gave de Pau.
Mathieu Julien, je me permets une question très personnelle. Je ne sais pas si vous êtes aveugle de naissance ou est-ce que vous avez déjà vu le sanctuaire et est-ce que vous l'avez jamais
non,
vu?
Non, j'ai jamais vu.
Et donc
je suis aveugle de naissance.
Vous l'avez découvert à travers cette maquette. Quel est votre rapport personnel avec le lieu et la maquette?
Alors, moi, la première fois que je suis venu à Lourdes, c'était pour les 50 ans du Concile Vatican II. Ouais. Donc, c'était il y a déjà 14 ans. Hein, et finalement, comprendre l'agencement de ce sanctuaire, ça n'est pas évident, comme je l'ai pu vous le dire, puisque vous traversez... cette espèce de cercle qui n'en est pas tout à fait un, et puis tout à fait un, pardon, et puis avec un gave de Pau qui le coupe, mais pas tout à fait au milieu. On n'arrive pas très bien à situer la grotte par rapport à la basilique. Est-ce qu'elle est à droite? Est-ce qu'elle est à gauche? Enfin, on ne sait pas très bien où on en est. Et donc, cette maquette permet d'avoir cette perspective assez globale en partant de la Porte Saint-Michel. Et alors, vous le décrire, je n'ai pas assez étudié la maquette, je l'avoue, pour savoir exactement comment les divers lieux se situent les uns par rapport aux autres. Je ne suis pas Balzac pour vous faire une description.
Mais vous nous rassurez, la maquette reste en fait. Sinon, au sanctuaire de Lourdes, elle n'a pas prévu repartir avec vous ensemble.
Non. Alors, ce que j'ai demandé tout de même au recteur, c'est de ne surtout pas perdre les mesures, parce que je me dis qu'il serait tout de même dommage qu'on ne puisse pas réaliser d'autres maquettes, peut-être pour faire connaître ce sanctuaire de Lourdes, qui est assez extraordinaire.
Père Rolin.
Pour élargir, dans la suite de la maquette tactile qui est déposée à l'OCH, l'idée, quand il y a eu cette commission accessibilité, ici même à Lourdes, c'était d'élargir l'accessibilité plus large. Il y aura un QR code qui permettront à des personnes déficientes visuelles ou des personnes aveugles qui ne maîtrisent pas le braille d'accéder de manière autonome et simple à la maquette tactile et surtout au sanctuaire de Lourdes, et il y aura une annexe où il y aura un livre en braille avec d'autres explications. Hier, il y a eu l'installation de la maquette, la bénédiction de la maquette, mais des rajouts vont être finalisés pour élargir l'accessibilité. Il y avait même aussi cette idée d'accessibilité pour les personnes avec handicap mental à travers la maquette, qui se veut aussi, alors excusez-moi de le dire, pédagogique avec tout ce qu'on a décrit, et Mathieu l'a bien dit, mais aussi pastoral, dans le sens où se rendra des lieux pour des temps de prière, des temps de dévotion personnelle, gagner en autonomie de manière fonctionnelle simple. Ça a été vraiment l'idée. Une autonomie simple, fonctionnelle, rapide.
Aujourd'hui, le choix a été de faire une maquette en dur, vous nous l'avez expliqué, et pourtant on sait que les personnes malvoyantes ou non-voyantes sont extrêmement équipées sur le plan digital. Il y a plein d'innovations. Mathieu Juglard, est-ce qu'aujourd'hui, l'innovation permet d'alléger la vie, de la rendre plus simple, plus facile, plus accessible ?
Alors oui, les innovations sont légion. Nous avons beaucoup d'outils qui se développent. On connaît encore une révolution technologique avec l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire celle qui va être capable de vous générer du texte en fonction de ce qui lui est apporté, que ce soit une image, que ce soit un son, peut-être une petite phrase. Voilà. On a aujourd'hui des outils de plus en plus perfectionnés. Il n'empêche que ce qu'on ne sait pas encore très bien faire, même si ça vient, ce sont les graphiques en relief. On a des outils, évidemment, on sait imprimer quelque chose aujourd'hui de graphique en relief, avec des techniques plus ou moins poussées, avec des temps d'adaptation plus ou moins avancés, mais ça n'est pas aussi accessible que quelque chose en 3D, notamment pour une personne déficiente visuelle de naissance. Pour quelqu'un qui a vu ou qui vient de perdre la vue, oui, on sait très bien faire. Et il peut trouver son bonheur. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu, c'est vrai que dans la mesure où le toucher a toujours substitué la vue, la représentation en deux dimensions est plus compliquée. Donc, évidemment, alors la réponse à votre question, elle est oui, bien sûr. Aujourd'hui, les nouvelles technologies facilitent la vie des personnes déficientes visuelles. Elles peuvent également devenir un frein parce qu'il faut toujours être assez équipé et se tenir très au courant de ce qui se fait et de ce qui ne peut pas encore se faire. Hein, ne pas jeter des espoirs trop grands sur des technologies qui finalement ne peuvent faire que ce qu'elles savent faire, mais également se méfier de ce que les nouvelles technologies, on s'en rend compte de plus en plus, nécessitent également une forme d'adaptation, même si c'est moins grand. Aujourd'hui, vous auriez un exemple tout bête, hein, c'est la photographie. Vous donnez une photographie imprimée ou numérique à une personne aveugle, si elle n'a pas d'outil d'intelligence artificielle pour la décrire, l'accessibilité reste encore très 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 compromise.
Et en même temps, ça ouvre à plusieurs développements. Anne Deloy, une question.
Oui, moi je n'ai pas encore vu où
mettez-vous,
dans le sanctuaire.
Mettez-vous bien devant le micro, chère Anne.
Merci. Je n'ai pas vu encore où elle était située dans le sanctuaire, cette maquette, mais peut-être dans une des entrées à la Porte Saint-Michel.
Alors la maquette, elle se situe à l'OCH Porte Saint-Michel.
Voilà. Donc l'Office chrétien des personnes handicapées.
Et en fait, en vous entendant, je me dis, c'est un service que vous rendez à tout pèlerin, déficient ou non, visuellement. Parce que
quand on a fait la première commission, la première réunion, c'était vraiment l'idée aussi... Il y avait un chapelain du recteur qui était là et il a dit, à travers cette maquette tactile accessible, d'abord pour les personnes aveugles et malvoyantes, après on a même évoqué handicap mental, légende en braille, pour les braillistes ou pas, mais je me dis qu'ils peuvent sortir aussi le braille, bien sûr, mais surtout après cette histoire aussi de QR code.
Voilà.
Mais il y avait aussi vraiment, il insistait, le chapelain, c'est lui qui avait raison d'ailleurs, au-delà de la maquette physique, il y avait quand même aussi quelque chose de spirituel. Et je crois vraiment que, je dévoile pas de secret, mais il y a encore d'autres projets pour le sanctuaire de Lourdes à travers d'autres maquettes sur des lieux spécifiques. Je prends un exemple, la basilique du Rosaire. Voilà, donc il y a encore d'autres projets auxquels voient ensemble l'OCH et le sanctuaire de Lourdes conjointement, puisque ça a été des décisions votées, je parle de voir ensemble en conseil d'administration, et aussi du côté de l'OCH et aussi du côté du sanctuaire de Lourdes, donc trois partenaires pour les mêmes...
Mais de continuer à reproduire l'intérieur des basiliques. Dominique Alain, je sens que vous avez envie de réagir.
J'ai envie de réagir parce que je suis en lien avec Martine à l'OCH et je sais que cette maquette, l'ancienne maquette, a été pour elle vraiment un service de la catéchèse parce qu'il y a plein de personnes qui passent vers l'OCH et elle s'est servie de cette maquette-là pour enseigner. Et je trouve que cette nouvelle maquette, qui a quand même un visage un peu plus neuf, et puis adapté à tous les travaux qui ont été faits, sera vraiment toujours un lieu où on pourra se renseigner sur la vie de Lourdes, sur la vie de Bernadette, et peut-être aussi découvrir les mystères qui sont au sein du sanctuaire, et faire peut-être un chemin de foi aussi.
On arrive déjà, ça va vite, au terme de l'émission. Donc évidemment, si vous souhaitez découvrir cette maquette, elle est à la porte Saint-Michel. C'est la grande entrée principale du sanctuaire. Voilà, sur votre droite, l'Office chrétien des personnes handicapées qui accueille les personnes porteuses d'handicap, les amis, enfin les ceux qui les accompagnent. Et en vous rendant là-bas, vous pourrez découvrir cette maquette. Peut-être le mot de la fin, j'ai envie de le donner au président de Voir Ensemble. De quoi avez-vous besoin pour continuer de faire grandir Voir Ensemble aujourd'hui ?
De tout.
Ça, c'est l'aumônier national dit de tout.
Mais il a entièrement raison. Nous avons besoin de tout.
C'est-à-dire
Nous avons besoin, mais de tout, parce que Voir Ensemble, c'est une association qui se veut chrétienne, citoyenne, qui amène la personne dans la cité. Donc la cité, elle est composée de tout. Nous avons besoin évidemment de personnes déficientes visuelles qui veulent bien nous rejoindre, mais également de bénévoles qui trouveront, je l'espère, une forme de partage, de foi, d'accomplissement personnel, mais également de religieux, parce que nous ambitionnons d'accompagner les personnes déficientes visuelles dans ce chemin spirituel. Nous sommes les seuls en France à faire ça. Peut-être qu'il y a des paroisses qui le font, je ne sais pas, évidemment, mais au niveau national, nous sommes les seuls à faire cela, et nous avons besoin de beaucoup de prières et de pensées, parce que c'est évidemment beaucoup de travail. Nos salariés et nos bénévoles se dédient corps et âme à cette tâche difficile et ô combien nécessaire. N'oubliez pas une chose, c'est que hélas, la déficience visuelle progresse. Et elle progresse notamment chez des personnes âgées qui, résultat, se trouvent coupées de la lecture et de l'écriture, dès lors qu'elles ne savent pas utiliser un ordinateur. Il faut que nous puissions leur apprendre cela. Mais c'est du temps, c'est de l'argent, c'est du soutien, c'est également beaucoup d'accompagnement. Et quand je vous dis la lecture et l'écriture, il n'y a pas que ça, une personne qui perd la vue va se dire, mais dans les gestes du quotidien, mais comment vais-je faire la cuisine, comment vais-je faire mon lit, comment vais-je aller à la messe, comment, etc. Tout ça, nous savons faire, tout cet accompagnement, nous savons le donner au travers de nos groupes, et nous avons besoin, vraiment un grand besoin, d'aide pour accompagner toutes ces personnes qui vont arriver et de plus en plus nombreuses, puisque, bah, hélas, la population française vieillit et vieillit beaucoup.
Vous l'avez compris, l'appel de voir ensemble, voilà, pour que l'inclusion ne se résume pas qu'à des principes, avec nos invités, avec tout ce mouvement national, soit une inclusion qui se vit, qui s'expérimente, qui se construit au quotidien dans la rencontre, et puis particulièrement dans la fraternité, je trouve que c'est ça qui caractérise notamment Voir Ensemble. Merci beaucoup. 81e pèlerinage à Lourdes aussi, c'est programmé, j'imagine.
Bien sûr, 12-17 avril 2027.
Ah ben, il y a déjà la date. Ben, alors, on prend date parce que vous allez revenir pour nous donner des nouvelles.
Et notre centenaire sera célébré à Lyon les 24 et 25 septembre 2027. Ce sera le grand événement, même si évidemment 2027 sera une année de plein de choses où tout le monde, c'est-à-dire à peu près 5000 personnes sera invité à célébrer le centenaire de Voir Ensemble, mais il y aura une grand-messe d'action de grâce le 25 septembre au soir, nous l'espérons, dans un des grands lieux de culte lyonnais, puisque c'était le berceau de notre mouvement.
Ah, bah écoutez, que Notre-Dame de Fourvière vous entende. Merci beaucoup, et puis à une prochaine fois. Merci.
Au revoir.
L'heure de pointe, David Torchala.